Vous écoutez
RMC. RMC, le vestiaire des GG.
Les GG cette semaine, ce qui nous a marqué, c'est évidemment la finale du top 14. On a parlé il y a un instant, on a dit que est-ce que Toulouse est invincible. Toulouse pèse 24 boucliers de Brennus, on l'a dit, cherchant à gagner un quatrième d'affilée. Et en fait, comment ne pas nourrir un complexe d'infériorité un petit peu quand on est en face, même si les Montpellierains, on les a entendus tout à l'heure, un peu agacés, qu'on parle beaucoup de Toulouse, mais c'est humain.
Inconsciemment.
Et comme les nations en du monde qui vont affronter, je sais pas, il y a Argentine, Jordanie par exemple. Vous imaginez les Jordaniens qui vont affronter Messi et les champions du monde, ceux qui vont affronter Djokovic et Sinner à Wimbledon. Je voudrais qu'on parle de ça, les amis. Comment est-ce qu'on maîtrise le complexe d'infériorité, David? Denis, Pascal, Christophe, on peut en parler.
Mais... Oh, il n'a pas de complexe.
David, d'abord, c'est vrai que on a cette construction mentale avec toi. Tu es l'invincible. L'être supérieur.
N'importe quoi.
Non mais en préparant cette émission, tu m'as dit, moi aussi, j'ai eu un complexe d'infériorité.
Ah bah oui. Mais bien sûr, quand tu es dans le monde du judo, la première fois que j'ai rencontré un Japonais. Bah ouais, j'ai eu ce complexe d'infériorité.
Parce que c'est les Japonais.
Parce que c'est la légende. Ils ont créé ce sport. C'était et ça reste une des plus grandes nations du judo et avec des individualités hors normes comme Yamashita, comme Nomura, etc., etc. Donc t'arrives, tu rencontres le premier Japonais, puis tu vois leur physique. Tu vois, ils sont avec un centre de gravité extrêmement bas. Quand tu les vois à l'échauffement, ils font des mouvements quasi parfaits. Enfin, t'es là, toi t'es un jeune bleu. Bonjour monsieur, enfin voilà, tu salues, puis te regardes. Et en plus, le Japonais aime ça, il est assez hautain, voilà. Et ils le savent, et ils en rajoutent.
Et ça t'impacte, ça.
Et ça t'impacte, évidemment que ça t'impacte. Mais, et j'espère que ça sera le cas de Montpellier ce soir, quand tu rentres et que tu commences à aller à la poloche, là, que ça commence à être dur, et que tu commences à voir perler les gouttes de sueur sur le front de l'autre, tu dis, ben attends, mais il sue lui aussi.
Il transpire comme moi.
Bah oui.
Il est comme moi.
Et puis il tourne la tête pour aller chercher des renseignements sur le coach qui est en train de lui vociférer des trucs sur le côté. Et donc il doute. Ah, mais attends, mais il est comme moi en fait. Et là, ça y est, tac.
Oui, dès que tu humanises.
Oui, alors, parce qu'il faut mettre le doute à l'adversaire, c'est surtout ça.
Oui, si tu prends une tôle tout de suite, t'as pas le temps de voir tout ça, c'est sûr.
Non, mais c'est la vérité.
Oui. Mais si un peu de confrontation, etc., ce sentiment-là disparaît très vite. Et c'est peut-être ce qu'on va voir ce soir, avec des Montpelliérains qui vont être un petit peu sur l'enculoir au début, et puis la poloche va commencer, la dureté va commencer, les combats vont commencer, et là, ça va s'enclencher.
Pascal Duprat, t'as entraîné des équipes qui étaient, on va dire la vérité, qui n'étaient jamais favorites face au Paris Saint-Germain, par exemple, qui était l'ogre du championnat. Est-ce que tu devais penser à un potentiel complexe d'infériorité que pouvaient avoir tes joueurs, qu'il fallait gérer pour toi?
Oui, bien sûr. Il faut d'abord se rappeler de sa carrière. Moi, tout petit, j'arrive de ma Haute-Savoie natale. J'ai 14 ans au centre de formation du FC Sochaux. À cette époque-là, c'était 16 joueurs, mais c'était des catégories d'âge disparates. Donc Bernard Giangini, Yannick Stopira, Joël Batz, tous plus vieux que moi. Moi, j'ai 14 ans. Je me dessus. Et donc après, c'est comme l'a très bien dit David. Ils sont comme toi. Tu t'aperçois que tu as le niveau. Et puis tu veux t'étalonner. Et donc ensuite, quand tu es entraîneur, tu sais, entraîneur de mon club, c'était d'abord le 7e club du département de la Haute-Savoie. Alors crois-moi, des complexes, on en nourrissait beaucoup pour aller jusqu'en Ligue 1 et à défier tout le monde. Donc tout ceci, ça se construit. La première construction, c'est le travail. Je connais pas de réussite, ou quelle qu'elle soit, si tu travailles pas. Donc s'entraîner plus et s'entraîner mieux, et puis à force, eh bien, faire en sorte que les joueurs arrivent au moment fatidique sans avoir fait le match avant, sans l'avoir disputé dans leur chambre pendant la sieste.
Par exemple, une semaine de Evian Thonon PSG, parce que je crois que tu les as battus 3 ou 4 fois quand même dans ta carrière d'entraîneur. Est-ce que tu faisais un truc spécial?
Non, rien de spécial. Voilà, moi j'étais pas pour faire d'un événement quelque chose de sacralisé.
Ouais, sinon on rajoute en fait.
Voilà, tu rajoutes de la pression, en fait. Et puis, c'est uniquement dire aux joueurs, les réconforter, leur dire qu'ils sont là et bien là. Donc, s'ils jouent le PSG, c'est qu'ils ont le droit et le mérite de jouer contre eux. Et puis, de leur dire que s'il y a bien un domaine dans lequel ils vont être meilleurs qu'eux, c'est la motivation. Parce que le Paris Saint-Germain jouait contre Evian, Thonon, Gaillard ou Toulouse, bon, généralement, ils n'en avaient pas grand-chose à faire. Et donc, au niveau motivationnel, ben, il est certain que nos joueurs étaient mieux armés, mieux préparés, parce que prêts à défier le Paris Saint-Germain.
On l'a vécu.
Et puis ensuite, notre sport est un sport collectif. C'est là toute la différence.
Ah oui.
C'est que la somme d'individualité fait un collectif, et que sur un match, eh bien, n'importe quelle équipe au foot peut battre le champion de France en titre ou le champion d'Europe depuis deux années.
Mais il faut l'avoir quand même en tête dans l'approche.
Ouais, ouais. Mais tout à l'heure, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on a eu un petit complexe d'infériorité sur ce plateau entre Denis et Christophe.
Oui, absolument.
Oui, c'est vrai, il faut savoir.
Une guerre d'égo.
C'est quand t'as bougé tout à l'heure.
J'emploierai pas le mot alors.
Ah bon ?
C'est pas tellement ça.
C'est pas ça ?
Ouais, explique-moi. Je vais pas en parler. C'est plutôt le bras de fer, et je l'ai quand même écrasé.
Oui, fatigue-moi, ça gère.
Tu lui as pété le coude.
Je fais moi taire parce que je pense que je vais exploser.
Comment existe le complexe d'infériorité dans le sport de haut niveau ? On est dans le vestiaire des grandes gueules du sport sur RMC. Denis, dans ton sport, il y a. Alors, David a parlé des Japonais dans le foot quand on est gamin. Nous, il y a le maillot des Brésiliens qui fait peur.
Il y a l'All Black. Mais l'All Black de tout temps, enfin de tout temps, ça s'est arrêté un jour. Mais
il y a eu un complexe. Tu avais un complexe d'infériorité, toi, face au Black?
Mais alors, je ne parle pas que de moi, je parle des générations. Et en 79, ils ont battu le jour de 14 juillet. Alors, moi, c'est ma génération. Ils battent les Blacks chez eux, avec Jean-Pierre Rive, Jérôme Gallion, enfin, tout le monde. Ils font un match héroïque. Et là, on s'est dit, ça y est, ils ont
vaincu le signe indien.
Ouais, exactement. Ouais. Ça a été.
Ils ont ouvert la brèche.
Ça a été un truc de dément. C'est-à-dire, quand on s'est dit, ils sont battables.
Non, mais comme a dit David, en fait, à partir du moment où tu les humanises.
On les humanise, mais le problème, ils ont toujours été très forts, quand même. Il faut dire la vérité. Ils roulaient sur tout le monde. Mais c'est vrai qu'il existait, ce complexe d'infériorité. J'ai eu la chance de jouer 6 fois, et tu joues pas les Blacks comme tu joues une autre nation.
T'as une appréhension. T'as le AK d'entrée.
Non, c'est pas que le AK.
Ça te file quand même les chocs.
Non, c'est l'appréhension.
C'est vrai,
le AK, tu sors. En tant que joueur, tu le mets de côté parce que t'es tellement concentré, focus. Tu te dis, tu penses à ton premier plaquage, tu penses surtout à pas être ridicule. La vérité, c'est que c'est plus la peur du ridicule que le complexe d'infériorité.
En fait. Ah oui.
Mais c'est plus vraiment, c'est un truc. Et en 86, alors on a la chance de les battre. Et alors c'est le match de Jacques Foroux à l'époque qui avait préparé ce match vraiment d'une manière incroyable. Ça avait été très très dur dans la préparation, et on leur roule dessus à Nantes. Match héroïque que font les avants. Enfin bon, on est ce jour-là collectivement, on les a battus. Ils ont été marqués pendant 40 ans. Ils en parlent encore. Hein. Marqué physiquement, marqué.
Tu crées un complexe chez celui qui crée des complexes.
Non, mais c'est incroyable. Alors après, je te dis ça, mais 6 mois après, on perd en finale contre eux de la Coupe du Monde.
Oui, mais bon, tu les marques.
Mais on les avait marqués parce que c'est resté dans l'histoire des Blacks. Ce match-là, il restait vraiment dans l'histoire des Blacks. Mais, et c'est vrai qu'un jour, tu te dis, bon, mais ils sont comme toi, quoi.
Alors qu'avant, tu les badais, en fait.
Mais tu badais complètement. Tu en faisais des super-héros.
Ouais. Jusqu'au début des années 60, il n'y avait aucun non-japonais qui gagnait un championnat du monde de judo. Aucun. Ouais. Aucun non-japonais. Anton Gessing, l'Hollandais, est le premier à battre un japonais en finale à Tokyo.
Donc il y a des faits qui te
mais ils en parlent encore, encore. C'est celui qui a ouvert la brèche à tel point que le lendemain, ouais, exactement, le lendemain, deuil national dans tout le pays. Tu vois le délire. Voilà.
Mais alors toi, David, tu as provoqué des complexes d'infériorité aussi à tes adversaires. Est-ce que tu l'as constaté?
Pas, oui.
Forcément.
Ouais, si, j'ai déjà remarqué.
Non, mais alors, mais c'est quoi? Parce que
le gars.
Tu sens l'ascendant que tu as.
Bah oui, parce que tu sais, en plus, dans un combat, ça se voit tout de suite. C'est-à-dire que le mec, il tend les bras, il se met le cul en arrière, il prend aucun risque, il défend, il ne fait que défendre, enfin, il veut pas que tu le touches, etc. Il fait de l'anti-judo.
Il y a appréhension.
Oui, il y a appréhension. Donc là, tu te dis. Oh, ça va être un combat de naze, quoi. Ça va pas être beau, ça va être galère, ça va pas être chouette, tu vois. Le mec va prendre aucun risque, toi, tu vas avoir du mal à installer ton judo, etc. Donc ça va être un combat pourri, en fait. Donc c'est décevant. C'est décevant. Il y a rien de plus magnifique que lorsque t'as un adversaire qui donne tout ce qu'il a, tu vois, et qui va au fond de ses capacités. Il y en a même un une fois.
Toi, tu voulais que les mecs ils soient encore plus motivés.
Mais bien sûr. Mais sinon, sinon tu fais pas un beau combat.
Oui,
c'est
mais pourquoi c'était plus facile presque qu'ils combattent pas.
Non. Non, moi ça me posait plus de problèmes à la limite, toi. C'est parce que un gars qui veut pas tomber, qui se met le cul en arrière, qui tend les bras, etc., faut aller le chercher. C'est des gars qui font 50 kilos quand même.
Avec un bloc bar, ça donne pas des beaux matchs. Essayer de rentrer dans ce bloc bar, on regarde les matchs que ça donne.
Ou comme en boxe, les combats plus poids lourds, avec s'accrocher à Tyson, par exemple.
C'est insupportable. C'est ça, c'est insupportable.
Non mais ça t'est arrivé, David, pas souvent, mais qu'un challenger t'ait battu. C'est-à-dire que le type qui nourrissait des complexes contre toi, c'est arrivé.
Il réfléchit. Parce
non, mais
qu'il,
je crois pose que cette question-là.
Le regard noir.
Jamais. Regard
attends, il réfléchit, Pascal.
Oui, non, je me suis déjà fait battre, mais parce que j'étais moins bon que l'autre.
Voilà, c'est ça ton explication. C'est pas l'autre qui est allé se sublimer ou c'est parce que toi t'étais moins prêt, moins présent à ce moment-là.
Ouais, c'est ça. Exactement. C'est de ma faute. Okay. À chaque fois.
C'est ta faute.
Par excès de confiance.
Une fois, oui, ça m'est arrivé. Une fois, je me suis retrouvé. J'étais face à un Hollandais qui était fort, mais bon, ça allait, j'étais en demi-finale, et je lui mets tout le tableau, le sapin de Noël, tu vois, tout est allumé, je lui mets tout le tableau, etc. Il reste 3 ou 4 secondes, là, l'arbitre casse le combat, faut qu'on se rhabille, bon, on se rhabille, je jure, je me retourne, je reste 3 ou 4, je dis, oh, c'est bon, c'est gagné. Et là, le mec arrive devant moi. J'ai encore la sensation d'être en planche à 1m50 sur le gong. Je prends une tôle, mon vieux. Mais une tôle, parce que je me suis relâché. Ouais. Et là, ce jour-là, je me suis dit, un combat, ça dure pas 5 minutes. Ça dure 5 minutes et 1 seconde. Voilà.
On est dans le vestiaire des grandes gueules du sport. Comment on gère le complexe d'infériorité? Parce que ça existe. Ça existe. On peut le combattre.
Ah oui.
En humanisant l'adversaire. C'est intéressant de vous écouter. Pascal, toi, on a parlé tout à l'heure de l'approche des matchs face au Paris Saint-Germain. Il y a un truc que tu ne voulais absolument pas voir de tes joueurs et tu leur disais quand même dans l'avant-match.
Je leur disais, mais je sais pas s'ils m'ont écouté. Moi, je me souviens d'une image, c'est Ibra au Parc des Princes, à la fin d'un match, il y a un joueur de l'équipe adverse, je me souviens plus qui, mais je me rappelle de cette image, qui vient échanger son maillot. Et Ibra, il le calcule même pas, il lui tend son maillot, mais il le regarde même pas. Donc moi, je disais à mes joueurs, oh, franchement, vous avez un peu de fierté, non? J'espère pas qu'il y en ait un qui va échanger le maillot avec Ibra à la fin du match. Parce que vous allez tous passer pour des cons devant vos familles. En fait, bon, de temps en temps, fallait utiliser de subterfuges pour que les garçons restent concentrés sur l'aspect du foot en lui-même et cette possibilité qui leur était offerte de battre des joueurs qui étaient intrinsèquement meilleurs qu'eux. Ça, c'est sûr que le PSG était souvent meilleur que les équipes que j'ai entraînées, mais ça nous a pas empêché de les battre quelquefois.
Et au final, t'as vu un de tes joueurs demander un maillot du PSG ou pas?
Je l'ai pas vu, mais je l'aurais rien dit en fait si ça s'était passé. Le match étant terminé, il faisait bien ce qu'il voulait.
C'est vrai
que d'avoir le maillot d'Ibra, c'est pas trop mal quand même.
Oui, mais c'est vrai que par exemple, les joueurs qui vont demander ça parfois avant le match ou à la mi-temps, ça témoigne déjà d'un complexe d'infériorité. On le voit pas trop en rugby, ça, Denis.
Si, il y a des échanges de maillots, on le voit pas vraiment, mais moi ça m'est arrivé, bien sûr.
T'as récupéré des maillots de.
Ah oui, des joueurs que je badais, oui, bien sûr.
Ah ouais,
avant le match.
Ah non, pas avant le match, mais après le match.
Après le match.
T'as récupéré quoi comme maillot?
Bah, des joueurs des Néo-Zélandais, des John Kirwan. J'ai même le maillot de Lemou que j'ai perdu depuis, que j'avais changé.
Celui qu'il a trouvé a beaucoup d'argent.
Ouais. Donc, c'est normal. Après, c'est un peu normal. Enfin, c'est logique, quoi. Quand t'as admiré des grands champions, à un moment donné, l'enfant ressort de toi, quoi. C'est naturel.
Alors, quel conseil tu donnerais à Montpellier? Ne regardez pas le maillot, ne regardez pas les étoiles sur le maillot des Toulousains.
Attendez la fin du match pour les changer. Surtout.
Attends, David, une fois, il y a même un concurrent qui s'est pas présenté.
C'était au premier tour des Jeux de Sydney, je crois. Donc le matin, tu vois tous tes adversaires puisque tu te pèses, même en poids lourd. Donc voilà, on est tous en slip là, la queue leu-leu, et on se voit, on jauge. Enfin bon, voilà, c'est le cinéma. Donc il était là à la pesée, c'était un Uruguayen, et un mec costaud en plus, un mec pas mal. Et donc je prenais au premier tour, donc je m'échauffe et tout, je crois même que je le vois sur le tapis d'échauffement.
En forme, a priori.
En tout cas, tu vois. Et je me présente pour le premier combat, personne. Il est où?
Il est sauté dans l'avion.
Personne, il s'est pas présenté. Et je me suis dit, Et j'étais fou de rage parce que toi, quand tu cales ta journée, tu te cales sur un certain nombre de combats. Donc tu dis voilà, je m'échauffe. Le premier combat, bah je vais finir, tu vois. Enfin, je vais mettre dans le rythme pour le deuxième, le troisième. Mais là, je peux pas me mettre dans le rythme parce que le gars est pas là, quoi. Il a fichu la pagaille, cet andouille.
Et non, mais pourquoi franchement, il avait déclaré forfait.
Je sais pas, j'ai jamais su.
Forfait par peur.
Non, j'ai jamais su.
Allez, comment on gère le complexe d'infériorité? Bon, si du coup t'as un conseil à donner aux jeunes qui nous écoutent, même toi, tu peux avoir un complexe.
Ah non, mais
c'est un truc humain.
Essayez pas de le gérer. De toute façon, au bout de quelques minutes, vous allez vous rendre compte que vous avez en face de vous un type comme vous. Donc, voilà. C'est bien d'avoir un complexe d'infériorité parce que on sait
c'est
où
un
on en est. Oui,
aussi,
puis c'est un respect, puis c'est de l'humilité, etc., etc. Mais l'idée, c'est de donner justement plus le mec est fort en face de vous et plus tu dois par respect donner le meilleur de soi-même.
Voilà. Bah, Christophe, j'espère que tu as tout noté. Du coup, avant les jeux du sport.
Infériorité par rapport à tous ces grands champions. Moi qui suis un petit journaliste, moi je
non,
arrête,
j'ose pas rentrer dans votre débat. J'ai peur de pas être à la
hauteur. David, c'est lui qui devrait faire du théâtre.
Non, mais
c'est du cinéma. T'as raison. Je vais parler de toi. Sincèrement, nous, bon, on est des pulasseurs, okay, on a été compétiteurs, etc., etc. Mais en tout cas, pour raconter, pour faire rêver les gens, pour les transposer. Oui. Sur le Tour de France, sur une pelouse, etc., etc. Chapeau, franchement, ouais. Sincèrement, c'est un talent, c'est un super talent. Moi, je serais capable de le faire, sincèrement. Et ça, c'est
Je sais pas. Vas-y, tu peux commencer par un but là, but de Dembélé. Voilà.
C'est impossible. Enfin non,
maintenant que t'es acteur, tu peux jouer.
Bah oui, mais faut que je me concentre là.
Vas-y, concentre-toi.
Attends, il a répété toute la soirée, il est fatigué. Arrêtez de me perdre là.
Allez, on referme la porte du vestiaire.